Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Olivier Rey, à qui on ne peut rien refuser, m'a demandé ce matin de vous faire une petite conférence introductive, un propos introductif plus exactement, puisque pour faire une conférence, encore faudrait-il que je sois spécialiste réellement des questions dont on parle. Alors je n'ai pas véritablement cette caractéristique, donc je vais me replier simplement sur le propos d'une restitution d'expérience. Voilà, je vais me considérer plus comme un acteur que comme un scientifique capable de véritablement penser de manière théorique les questions qui nous occupent. Et je vais donc vous faire une petite restitution d'expérience du travail de la dernière année au Conseil supérieur des programmes, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau socle et des nouveaux programmes scolaires, de cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, puisque le CSP a fait tout cela, plus quelques autres petites choses depuis que je suis président de ce conseil, c'est-à-dire depuis le 27 septembre 2014, donc pratiquement un an jour pour jour. Je vais le faire de façon totalement subjective, hein, donc n'y voyez pas malice, donc je vais avoir l'outrecuidance d'assumer le travail du CSP et de considérer que nous avons bien travaillé. Je sais, c'est horrible, mais c'est comme ça. Et je vais essayer donc de vous dire ce que nous avons visé comme objectif, puisque une fois qu'on a passé le constat que j'entends souvent et qu'on me fait souvent connaître, que le CSP est une bande de branquignoles nulles et sans conscience, il se trouve que nous avons travaillé à partir de principes. Et que nous avons non seulement travaillé à partir de principes, mais que nous avons tenté de les objectiver, malgré tout, et de les tenir jusqu'au bout. Nonobstant quelques difficultés que je n'évoquerai pas toutes ici, parce que ce serait trop long. Nonobstant quelques difficultés qui sont liées, peut-être, et c'est une réflexion que je peux lancer en commençant, mais que j'aurais pu garder pour la fin, nonobstant quelques difficultés qui traduisent d'ailleurs dans l'ensemble notre. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Olivier Rey, à qui on ne peut rien refuser, m'a demandé ce matin de vous faire une petite conférence introductive, un propos introductif plus exactement, puisque pour faire une conférence, encore faudrait-il que je sois spécialiste réellement des questions dont on parle. Alors je n'ai pas véritablement cette caractéristique, donc je vais me replier simplement sur le propos d'une restitution d'expérience. Voilà, je vais me considérer plus comme un acteur que comme un scientifique capable de véritablement penser de manière théorique les questions qui nous occupent. Et je vais donc vous faire une petite restitution d'expérience du travail de la dernière année au Conseil supérieur des programmes, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau socle et des nouveaux programmes scolaires, de cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, puisque le CSP a fait tout cela, plus quelques autres petites choses depuis que je suis président de ce conseil, c'est-à-dire depuis le 27 septembre 2014, donc pratiquement un an jour pour jour. Je vais le faire de façon totalement subjective, hein, donc n'y voyez pas malice, donc je vais avoir l'outrecuidance d'assumer le travail du CSP et de considérer que nous avons bien travaillé. Je sais, c'est horrible, mais c'est comme ça. Et je vais essayer donc de vous dire ce que nous avons visé comme objectif, puisque une fois qu'on a passé le constat que j'entends souvent et qu'on me fait souvent connaître, que le CSP est une bande de branquignoles nulles et sans conscience, il se trouve que nous avons travaillé à partir de principes. Et que nous avons non seulement travaillé à partir de principes, mais que nous avons tenté de les objectiver, malgré tout, et de les tenir jusqu'au bout. Nonobstant quelques difficultés que je n'évoquerai pas toutes ici, parce que ce serait trop long. Nonobstant quelques difficultés qui sont liées, peut-être, et c'est une réflexion que je peux lancer en commençant, mais que j'aurais pu garder pour la fin, nonobstant quelques difficultés qui traduisent d'ailleurs dans l'ensemble notre irresponsabilité collective dans notre relation au programme. Voilà, et aux questions programmatiques. C'est-à-dire, nous avons une relation au programme scolaire qui est tout simplement insensée. Les programmes scolaires sont une sorte d'idée devenue folle, comme disait l'autre, Chesterton en l'occurrence, en parlant du christianisme. Donc, sorte d'idée formidable au départ, mais devenue complètement folle. Lorsqu'on voit quelques débats sur certains programmes, on se dit « mais il doit y avoir une caméra cachée quelque part, ça n'est pas possible qu'on parle des programmes en ces termes ». Et je pense que toutes les difficultés que nous avons traduisent aussi un état collectif problématique, pour ne pas dire préoccupant, de l'école comme institution et de ses partenaires, ou des parties prenantes, comme on dit en Amérique du Nord, par rapport non seulement à l'organisation de l'école, mais aussi par rapport à ce qu'elle est censée viser en matière de formation et d'apprentissage des enfants. Et en ce sens, c'est peut-être d'ailleurs pour moi un des principaux enseignements de cette dernière année. C'est notre difficulté de parler posément des questions programmatiques et des questions qui vont nous occuper pendant ces deux journées-là. J'en donnerai peut-être quelques exemples tout à l'heure et je crois que ça doit nous faire réfléchir. Quand on a un rapport quasi religieux au programme, quand certains pensent que les programmes doivent être des manifestes pour promouvoir une vision de la bonne éducation ou de la bonne discipline qui serait exclusive de tout autre, ça me pose question. Ça me pose problème. Parce que je pense qu'on vicie immédiatement le débat qu'on devrait avoir et qui est un débat toujours beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus lié à l'observation de ce qui se passe avec les enfants, dans les classes, dans les établissements, et qui est toujours beaucoup plus lié à un certain nombre de réflexions qu'on peut mener sur qu'est-ce que les élèves doivent apprendre, et pas qu'est-ce que les professeurs doivent dire. Voilà. Donc je commencerai par vous parler du socle, dont on ne parle plus, hélas. Or le socle, c'est, comme son nom l'indique, on l'a appelé le socle, pas le sommet, hein. On l'a appelé le socle pour une raison claire, c'est que il est censé fonder les parcours de formation proposés aux élèves pendant un moment de la scolarité. Globalement, la scolarité obligatoire, mais en fait pas que, puisque le cycle 1 ne fait pas partie de la scolarité obligatoire, en théorie. Et en pratique d'ailleurs aussi, puisque une partie des enfants se soustrait au cycle 1, en tout cas les deux premières années. C'est moins vrai pour la grande section de maternelle où la scolarisation n'est pas exhaustive, mais elle est quand même très, très forte. Mais pour la petite et la moyenne section, on a encore des proportions non négligeables d'enfants qui ne sont pas scolarisés, et les parents ont le droit de ne pas scolariser leurs enfants. Donc ce droit, il faut leur conserver, d'où le travail sur ce cycle, dans l'intégrité de ce cycle. C'était extrêmement paradoxal d'avoir une scolarité non obligatoire dont la dernière année était la première année d'un cycle de scolarité obligatoire. C'était, dès le départ, tordre le cycle école maternelle, et le tordre dans un mauvais sens. C'est-à-dire en ramenant le plus tôt possible dans le système ce qui pervertit le système. C'est-à-dire une sorte de conception sélectivo-élitiste hyper précoce de la formation. Hein, puisqu'on avait vu certaines grandes sections de maternelle se transformer en classe préparatoire du cours préparatoire. Ce qui est le fantasme de beaucoup de personnes, mais quand même qui peut sembler déraisonnable. Donc le socle fonde cette partie des trois cycles dont nous allons parler ensuite, C2, C3, C4, mais en fait informe quand même malgré tout le C1. Et si le socle est respecté, s'il est suivi des faits, il devra aussi informer ce qui suit. Ce qui suit, c'est-à-dire le troisième bloc de la scolarité que nous pouvons proposer aux enfants. J'y reviendrai tout à l'heure, donc je n'insiste pas pour l'instant. Ce socle, nous avons tenté de le modifier par rapport au socle 2005, qui n'était pas d'ailleurs sans qualité, hein, loin s'en faut. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le socle 2005. Et je trouve qu'il y avait dans ce socle énormément de choses intéressantes, et dans une certaine mesure, l'existence de ce socle 2005, qui ne s'est pas imposé en tant qu'objet sans mal, il ne s'est jamais imposé en tant que réalité scolaire, mais déjà il s'est imposé comme objet de réflexion. L'existence de ce socle 2005 a permis beaucoup de choses, et sans doute que la loi de refondation de l'école n'aurait pas été la même si ce socle 2005, dans ses imperfections et ses fragilités, n'avait pas existé. Il avait été fait avec beaucoup de soin, avec déjà une réflexion sur ce qui se passait dans d'autres pays, mais déjà eu une comparaison internationale. Nous avons nous aussi travaillé sur ce qui se passait dans d'autres pays, à Curriculum en particulier, où nous sommes allés voir de près, sans vouloir transposer terme à terme, parce que l'organisation du système éducatif français est tellement spécifique qu'il serait erroné de vouloir transposer terme à terme. Ça ne marche pas. De ce point de vue-là, nous pourrons en discuter. Je pense qu'il n'est pas possible d'avoir en France une démarche vraiment curriculaire. Si l'on va jusqu'au bout de la démarche curriculaire, dans ce cas-là de plus, j'allais dire, quintessentiel, dans certains pays de traditions très différentes, nous ne pouvons pas en France y aller. Notre organisation ne nous le permet pas. Déjà parce que nos établissements ne sont pas autonomes. En tout cas, non pas, et nos territorialités ne sont pas celles qui permettraient un véritable déploiement curriculaire. Donc, il ne s'agit pas de transposer. Il s'agit de comprendre ce qui, dans certains cas étrangers, peut nous permettre de poser des questions intéressantes au système français. Et donc, nous l'avons fait, ce travail, et d'ailleurs, plutôt deux fois qu'une. Donc, ce socle, nous avons essayé de le bouger, le changer par rapport au socle 2005, de plusieurs façons. Alors, je passe sur son intitulé, « Socle commun de connaissances, de compétences et de culture », ce qui ne veut rien dire. Voilà. Mais ce qui est le résultat d'un arbitrage lié à une discussion de plusieurs mois dans le cadre de la loi refondation de l'école avec des organisations syndicales qui sortaient les chars d'assaut si le mot « connaissance » n'apparaissait pas. Voilà. Parce que, mesdames, messieurs, l'enseignement, c'est la connaissance. Donc déjà, on est mal barré, hein, dès le départ. Hein. Il y a quelque chose qui est troublé dès l'origine, mais il a fallu mettre connaissance, compétence, culture. S'il avait fallu rajouter raton laveur, on l'aurait fait. Mais voilà, c'était une sorte de compromis historique qui permettait que la loi refondation de l'école progresse et que le socle en soit un constituant majeur, puisque ce dont nous parlons, c'est un des points majeurs de la loi refondation. Dans la loi refondation de l'école, il y a un pari, qui est un pari important. Je ne suis pas sûr qu'il sera gagné. Hein. Je vais vous dire que le CSP a fait son boulot et plutôt bien, mais je ne vous dirai pas que pour autant nous avons véritablement gagné et que la loi refondation de l'école ira jusqu'à son terme et que ce qu'a produit le CSP ira véritablement jusqu'à son terme et provoquera un certain nombre de changements majeurs. Je n'en suis pas certain. Je dirais même plus que je suis assez souvent certain du contraire. Mais nous avons au moins été jusqu'au bout du travail qu'on nous a confié. Donc, la loi refondation de l'école parie que l'on peut refonder l'école de la République, ce qui n'est quand même pas rien. Hein. Il ne s'agit pas simplement de repeindre, mais de refonder l'école de la République à partir d'une réflexion sur les contenus d'apprentissage. Non, à partir d'une réflexion sur les modalités de l'apprentissage. Ça aussi, peu de gens ont vu que, en fait, la loi refondation de l'école et la proposition du CSP est secondairement une proposition de contenu, en fait. Les contenus ne sont pas premiers. C'est autre chose qui est premier, qui devrait l'être. Donc, nous avons essayé de faire en sorte que ce socle, d'abord, soit réellement un document au travail pour définir les parcours scolaires. Nous avons diagnostiqué l'échec du socle 2005 de manière simple, en disant si ce socle n'a pas été véritablement un succès, c'est pour deux raisons, une que j'évoquerai, une que je ne ferai que mentionner, le problème de l'évaluation. Je pense que la généralisation du livret de compétences a été un problème majeur dans la mauvaise réception du SOC. Il y a des études qui ont été faites, y compris en partie ici, qui montrent comment les professeurs des écoles qui s'étaient acculturés bien avant le SOC, même à certaines problématiques qui étaient au cœur du SOC 2005, se sont tendus, se sont crispés à partir du moment où le livret personnel de compétences a été généralisé. Donc je pense qu'il y a eu un problème évaluatif. Et ça devrait nous faire réfléchir à l'importance de l'évaluation. D'ailleurs, je vous rappelle que dans les vrais curricula, l'évaluation est centrale. La problématique de l'évaluation est première. Elle n'est pas accessoire. Donc, il y a incontestablement une difficulté majeure aujourd'hui autour de la question de l'évaluation qui est liée aussi à la difficulté plus globale que nous avons d'aborder les grands moments évaluatifs, j'allais dire les grandes cérémonies évaluatives qui fondent le système français, à savoir le DNB, le bac, qui viennent profondément, pour moi, biaiser tous les discours sur l'évaluation que nous pouvons tenir. Voilà. Je le vois sur le DNB, le CSP n'a jamais fait mystère qu'il n'était pas favorable au maintien du DNB, voilà, qu'il estimait qu'une logique d'évaluation en cours de formation bien faite était tout à fait susceptible de valider ce que nous souhaitions valider en termes de maîtrise de compétences, notamment chez les élèves après le bloc de 9 ans de scolarité obligatoire, peu ou prou, même si la scolarité obligatoire se termine à 16 ans, donc certains élèves finissent la troisième avant 16 ans, d'accord, ok, mais enfin globalement, c'est 3 fois 3 années du CP jusqu'à la troisième, c'est 95 ou 16% de la scolarité obligatoire pour la plupart des élèves. Donc, arrêtons de tourner autour du pot. Donc, nous pensions que ce bloc, dans son intégrité, pouvait très bien être validé par un type d'évaluation tout à fait différent de celui qu'on suggère aujourd'hui. D'ailleurs, tout en suggérant le contraire, puisque le DNB est lui aussi relativement cosmétique. On voit bien qu'il est fait essentiellement pour répondre à des besoins qui ne sont absolument pas des besoins évaluatifs, qui sont des besoins socio-symboliques, essentiellement, qui sont liés à la volonté de ne pas désespérer Billancourt, c'est-à-dire globalement les professeurs de collège, et faire en sorte, parce que bon, les professeurs des écoles, ça ne les émeut pas trop qu'on leur parle de contrôle continu, d'évaluation tout au long de la formation, voilà, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'examen en fin de CM2. Voilà, il y en a eu... d'ailleurs dans des conditions très différentes de l'organisation de l'école contemporaine. Je sais bien que certains voudraient en recréer un. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un signe de progrès collectif. Bon, voilà. Mais on a maintenu le DNB. Alors vous imaginez que si on a maintenu le DNB, ça va quand même être un tout petit peu compliqué pour se pencher sur la question du baccalauréat. Donc, comme le CSP est joueur, il est possible que nous le fassions. Parce que quand on a commencé à se faire des ennemis, c'est trop bête de laisser ça de côté quand on en a la possibilité. Mais globalement, vous voyez bien que sur l'évaluation, je n'irai pas plus loin, mais il y a une vraie question de fond. Et d'ailleurs, qui est une question qui travaille tous les débats qui peuvent avoir lieu aujourd'hui sur la réforme du collège, notamment aussi le débat sur les EPI, par exemple. Et qui renvoie d'ailleurs à cette chose très étrange, c'est le dénuement de beaucoup de professionnels de l'éducation, en tout cas tel qu'on l'entend lorsque ce sont les organisations syndicales qui parlent de ces professionnels, parce que quand on va voir sur place, c'est moins net, le dénuement des professionnels de l'éducation par rapport à la question de l'évaluation. Voilà. Moi, c'est ça que ça m'évoque, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'imagination quand on entend le discours de la profession sur l'évaluation. Quand on regarde les pratiques, c'est autre chose, mais quand on entend le discours autorisé, on se dit, bah flûte alors, il n'y a que ça. Enfin, ça n'est que cela aujourd'hui, l'évaluation, en particulier dans le système secondaire. Ça, c'est quand même bizarre. Bon. Donc, ce que nous avons voulu mettre en avant donc à travers le socle, et je laisserai donc de côté l'évaluation, dont nous avons quand même parlé, avec un insuccès absolument magnifique, c'est la mise en avant, malgré tout, des compétences, et plus encore, nous avons tenté d'écrire le socle pour la première fois vraiment du point de vue des élèves et pas du point de vue des enseignants. Et d'ailleurs, c'est un choix qui a ensuite rejailli sur l'écriture des programmes. C'est moins net pour les programmes, encore que ça le soit déjà beaucoup. J'y reviendrai, mais nous avons tenté de faire en sorte que le socle soit pensé et écrit du point de vue des apprentissages maîtrisés des élèves et non pas du point de vue des activités non maîtrisables des enseignants. Et ça, c'est quelque chose qui change vraiment tout, hein. Parce que ça veut dire que le message que nous faisons passer, et je constate pour tourner quand même un peu dans certaines académies que ça reste quelque chose qui pose question, alors plus fortement dans certains univers scolaires que dans d'autres, mais j'étais ce vendredi au rendez-vous de l'histoire à Blois. Quand vous dites un programme, ça n'est pas ce que le professeur raconte, c'est ce que l'élève apprend, la plupart des gens à qui vous parlez vous disent, mais c'est la même chose. Et là, vous dites, écoutez, ça a des liens, le plus souvent, mais ce lien n'est sans doute pas un lien de continuité aussi clair et transparent que vous voudrez bien le mettre en avant. Voilà. Et ça, moi, ça me pose une vraie question. C'est-à-dire le fait qu'on puisse se faire canarder en tant que président du CSP quand on dit... Mesdames, Messieurs, les professeurs, quand vous enseignez une discipline, vous enseignez toujours plus qu'une discipline. Ça continue de poser problème dans certains univers scolaires aujourd'hui, en particulier en collège. Moi, ça me pose question. Et ça, je ne juge pas, je n'ai pas de jugement moral, ça me pose des questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie, le fait que dans une partie du système scolaire, non négligeable, encore aujourd'hui, la culture professionnelle des enseignants est pratiquement réduite à la culture disciplinaire. Et je pense que c'est un de nos problèmes majeurs, et que tant que nous n'arriverons pas, non pas à déconnecter, parce qu'il ne s'agit pas de déconnecter, on enseigne toujours quelque chose, on ne flotte jamais en l'air, hein, quand on enseigne, mais à enrichir la culture professionnelle, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire à la même pas la compléter, mais à l'ouvrir, à relativiser donc le poids de la discipline dans cette culture professionnelle. Je pense que tant que nous n'aurons pas véritablement fait cela, les mots d'ordre de refondation de l'école seront assez rhétoriques, et ce d'autant plus que ça rejaillit sur la question de l'évaluation dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a un bouclage entre les deux qui moi, aujourd'hui, me paraît très évident. Et je ne dis pas d'ailleurs que ouvrir ce verrou soit simple. Je ne le dis pas, hein. Je crois au contraire que dans la tradition française, c'est très compliqué. Et quand on voit la mise en place des ESPE, quand on l'observe, quand on voit la difficulté que les universités ont à s'impliquer de manière innovante et volontaire dans la formation des enseignants, et quand on voit que dans beaucoup d'universités, cette formation des enseignants est, de la part des universitaires, est encore pensée sous l'angle de l'apport disciplinaire quasi exclusivement, je me dis que nous avons encore un très gros travail collectif à engager. Donc ce socle, nous avons voulu l'écrire du point de vue des apprentissages, ce que l'élève sait et maîtrise. Enfin, de parcours. Et les programmes, nous avons voulu également les écrire comme cela. En fait, malgré tout, et malgré en particulier l'intitulé du socle comme un de connaissance, hein, mis en premier, nous avons écrit des socles et programmes qui sont plutôt centrés sur les compétences. Et ce, parce que nous avons privilégié le point de vue de l'élève. Dans les programmes, ça renvoie Vous savez, les programmes, il y a deux niveaux de lecture, hein, des fonds en bleu qui renvoient à des niveaux de lecture plutôt généraux et des tableaux plus professionnels. Dans les niveaux de lecture généraux, il n'y a pratiquement pas une connaissance. Les tableaux que nous proposons à la lecture du plus grand nombre s'appellent tableaux des compétences travaillées. Là-dessus, nous n'avons pas avancé masqué. Donc ce sont des compétences travaillées, qui sont d'ailleurs souvent des compétences à gros grains, hein, définies comme pratiquement toujours des méta-compétences. C'est aussi un choix, c'est-à-dire c'est un choix qui vise à faire en sorte que l'on ne rentre pas dans un débat scolastique et byzantin sur la définition des compétences. Nous avons aussi pensé que le socle ne pouvait pas, et les programmes ne pouvaient pas être des manifestes de la bonne discipline, mais ils ne devaient pas non plus être des manifestes en matière de définition des compétences. Donc nous avons travaillé de façon un peu ingénue la question des compétences. Conception presque, une acception presque ordinaire des compétences comme capacité à activer des choses qui permettent ensuite de continuer des apprentissages ou de certifier qu'un certain nombre de choses sont acquises. Donc les parties générales sont entièrement compétentielles, entièrement, et ça nous est d'ailleurs suffisamment reproché, hein, y compris dans certaines voies disciplinaires comme l'EPS. Hein. C'est un paradoxe d'ailleurs. Hein, là il y a de la géopolitique aussi, hein, donc il y a aussi une relation pas complètement paisible entre le principal syndicat et l'inspection générale. Voilà. Donc nous avons défini des compétences dans les parties générales et dans les parties professionnelles. Dans les parties professionnelles, tous les tableaux professionnels sont centrés sur les compétences. La colonne de gauche est une colonne en particulier de compétences et de connaissances, mais qui est très liée aux compétences, et les connaissances sont plutôt sur les colonnes de droite ou dans les puces qui déclinent les compétences dans les colonnes de gauche. Je dis ça pour ceux qui ont lu les programmes, ceux qui n'ont pas lu les programmes auront un devoir et seront priés de les avoir lus d'ici demain matin à 8h30. Il y a un contrôle. Donc ce centrage sur les compétences est tout à fait important pour nous. L'intérêt d'avoir des compétences relativement larges, des métacompétences, c'est que ça permet aussi d'avoir des visions ouvertes et non dogmatiques. C'est-à-dire que ça permet de laisser des possibilités d'échappement. Voilà. Une chose que nous avons mise en avant dans le socle et les programmes, ça va vous sembler curieux, mais c'est comme ça, c'est que nous avons tenté de faire des programmes et un socle qui soient finalement le moins prescriptif possible. C'est-à-dire un bon programme, c'est un programme qui laisse la possibilité, j'allais dire de ne pas le faire, mais en tout cas qui laisse la possibilité de l'interpréter, de se l'approprier, de l'interpréter, de le transformer dans sa chose propre. Hein, c'est ça l'appropriation. En faire une chose propre à soi. En raison de quoi ? Mais en raison de sa sensibilité d'enseignant, des méthodes qu'on aime à mettre en œuvre, du type de classe et d'élèves qu'on a face à soi, et ça peut changer très souvent. Soi-même, on peut évoluer dans une carrière. C'est peut-être d'ailleurs une des conditions de maintien dans le métier, que d'être capable d'évoluer dans ses paradigmes, dans ses méthodes, dans ses choix, dans ses directions, dans ce que l'on aime faire. Durer dans le métier, c'est peut-être cela qui le permet, parce qu'autrement ça devient rapidement intenable, surtout que si les méthodes restent, souvent, les profs l'ont remarqué d'ailleurs, les élèves changent. Et donc, si l'on n'est pas capable de soi-même repenser, réorganiser son bureau, comme on disait jadis dans l'informatique, on est rapidement très malheureux. Donc un bon programme est un programme qui oriente. Un bon socle est un socle qui oriente au sens fort du terme, comme la boussole oriente, mais c'est un programme qui laisse ouvert les choix de programmation, de progression et de parcours. D'ailleurs, comme la boussole. Si vraiment on est un aventurier, si vraiment on est un créateur de son propre parcours, on sait où on va, On sait que pour y aller, il faudra sans doute passer par des passages obligés. Mais après tout, il y a une variété de chemins possibles. Et le socle, et les, en particulier, c'est vraiment cela. C'est une sorte de nord magnétique de la scolarité obligatoire qui balise un champ par des passages obligés, mais qui ne dit rien de la façon dont on va ensuite passer d'un de ces passages à l'autre pour arriver là où on doit arriver. Et nous avons voulu faire les programmes de la même manière. C'est d'ailleurs un des débats les plus forts que nous ayons eu en Conseil supérieur de l'éducation, hein, où les organisations syndicales, pas toutes, mais une bonne partie, nous demandaient d'être plus précis dans les programmations, les progressions, les niveaux d'attente. Et à chaque fois, le CSP répondait, ça n'est pas de nature programmatique. Ce qui d'ailleurs est plutôt heureux, parce que autrement, qu'est-ce que serait l'école française, hein, s'il fallait que les programmes se... Enfin, les programmes de 2008, c'était un peu ça dans certaines disciplines, hein. Et d'ailleurs, je trouve absolument curieux que des organisations syndicales ne se félicitent pas de cette disparition-là. Enfin, en histoire et en géographie, pour reparler d'un programme qui fait beaucoup parler de lui, le programme de 2008, on a même des listes de dates à apprendre. Enfin, je trouve que c'est infantiliser les enseignants. Et les élèves. Et oh, bah, les élèves, ça fait tellement longtemps qu'on les infantilise que c'est infantiliser tous les acteurs du système éducatif. Enfin, moi, je trouve que... Donc, en fait, le socle et les programmes ont été créés pour restaurer une certaine conception de la liberté pédagogique. C'est-à-dire une liberté pédagogique qui ne soit pas conçue comme le droit de ne jamais rendre de compte, mais comme la capacité à s'approprier une orientation pour programmer sa propre activité. C'est ça, là, pour moi, la vraie liberté pédagogique. Dans le socle, 2015, j'accélère, hein, j'en ai plus que pour 3h15. Dans le socle 2015, il y a des nouveautés auxquelles nous tenons par rapport au socle 2005, et toutes ces nouveautés sont liées peu ou prou à la volonté de mettre en avant ce socle écrit du point de vue de l'élève. C'est en particulier le domaine 1 et le domaine 2. Et c'est surtout d'ailleurs le domaine 2, c'est-à-dire le domaine 1 sur les langages. Donc les langages, il n'y a rien de possible sans la maîtrise des langages. Et ça dure jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Dans toutes les disciplines. Y compris le français. Ça veut dire que être professeur de français en collège, c'est continuer le travail de maîtrise du langage, et ça n'est pas seulement, ni principalement, faire de la littérature. Voilà. Et ça, le CSP a toujours été clair là-dessus, la relation à la littérature et au texte littéraire, elle est importante, elle est même sans doute fondamentale pour lancer certains types d'exercices, mais il y a un objectif majeur, qui doit être une grande cause nationale, de mobilisation de tous autour de la maîtrise des langages. Sans cela, rien n'est possible. Et d'ailleurs, je comprendrais mal qu'on ne soit pas d'accord là-dessus, puisque par ailleurs, dans les gazettes, à longueur de journée, on dit les élèves ne savent plus parler, les élèves ne savent plus s'exprimer, les élèves ne comprennent plus le sens des mots. Vous savez, l'élève est toujours défectif, hein, en France. Hein. Il est toujours ne pas. Donc, bon, alors, si on veut que les élèves maîtrisent, eh bien, il faut y consacrer du temps. Et ça veut dire que les maîtrises des langages ne sont pas des savoirs d'étiquetage. C'est-à-dire, on voit avec certaines organisations syndicales, le SNALC en particulier, il y a une opposition forte du CSP au SNALC, parce que nous considérons que certains syndicats font des savoirs de maîtrise des langages, en particulier du français, mais aussi des mathématiques, des savoirs d'étiquetage. Si vous savez étiqueter le COD, vous maîtrisez le langage. Eh bien non. La maîtrise du langage, c'est autre chose que de savoir étiqueter. Et surtout qu'en général, on peut apprendre à étiqueter sans être le moins du monde capable de définir le sens de l'étiquetage. Donc nous avons dans le socle, comme dans les programmes, une conception non instrumentale de la maîtrise des langages. Voilà. les langages ne sont pas considérés simplement comme des instruments formels, vides de sens. Les langages, c'est la voie d'accès à la compréhension. Donc, tout ce que nous avons proposé est tourné vers la compréhension. Et c'est important de le dire parce que l'école française n'est pas spontanément tournée vers la compréhension. La recherche que vient de mener Roland Guagou au sein de l'IFE sur lire et écrire en CP montre bien qu'il y a un vrai problème par rapport à la question de la compréhension. D'abord, on ne l'évalue pas, ou très rarement. Donc on a eu des discussions homériques depuis un an sur l'extraction des racines carrées, l'étiquetage des groupes nominaux, enfin, toutes choses qui sont, vous savez, des choses qui sont convertibles en exercice automatique, et nous avons demandé à ce qu'il n'y ait pas de conversion en exercice automatique. Ça ne veut pas dire qu'on considère que ça n'est pas important de faire des racines carrées, mais ça veut dire que ce qu'on trouve important, c'est de comprendre ce que l'on fait quand on en fait. De même, le théorème de Pythagore, c'est important de le connaître, mais c'est surtout important de comprendre le cas, la question que s'est posée le camarade Pythagore, et surtout la manière qu'il a choisie pour régler son problème, qui est tout à fait étonnante, et dès qu'on déploie cette manière, les élèves comprennent. Donc, il y a vraiment là quelque chose de très important, et puis le deuxième domaine qui participe de cela, c'est le domaine 2, les méthodes et outils pour apprendre, qui est vraiment un domaine qui nous a paru tout à fait décisif, parce que c'est la même chose, c'est le domaine qui permet aux élèves de maîtriser ce qui est nécessaire pour apprendre et dans le cadre d'un apprentissage tourné vers la compréhension. Ensuite, les autres domaines sont des domaines non pas secondaires, mais sont des domaines qui sont embarqués en quelque sorte par les deux premiers, qui sont évidemment non disciplinaires, j'y reviendrai, et qui sont évidemment ouverts les uns aux autres, mais c'est un point sur lequel il faut évidemment insister. Alors, pour passer trop vite vers les programmes de cycle, nous avons décidé que ces programmes de cycle devraient être soclés. C'est le deuxième point du diagnostic que j'ai évoqué tout à l'heure concernant l'échec du socle 2005. Premier point, le socle 2005 a été discrédité par la mise en œuvre évaluative qui a été choisie. Deuxième point, le socle 2005 a été escamoté par le fait que les programmes proposés ne se sont pratiquement jamais référés au socle. C'est-à-dire les programmes se sont désoclés. Bon, alors à ce moment-là, personne n'est complètement idiot. Si on a un socle qui n'est jamais utilisé comme référence au programme, on ne voit pas pourquoi on continuerait de le trouver intéressant ou important. Intéressant éventuellement, mais important sans doute jamais. Donc le socle était condamné à rejoindre le vaste hangar dans lequel on archive tous les textes mort-nés, y compris géniaux, que l'éducation nationale a permis de produire depuis un peu plus d'un siècle. Donc, et je ne parle que de ce ministère. Donc, nous avons décidé d'essayer de lutter contre ça. Je ne suis pas sûr que nous y arriverons, hein, parce que je constate dans ma tournée des plages et des MJC que j'ai entamé pour défendre le socle et les programmes que pratiquement tout le monde oublie le socle. C'est pour ça que j'en parle longuement. Donc, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas oublié. Mais nous avons pourtant tenté dans les programmes de le rappeler aussi souvent que nécessaire. Volet 2 des programmes. Alors là, j'ai fait un test. Hein. Presque personne ne lit les volets 2 des programmes. En particulier, plus vous allez vers la troisième, moins on les lit. De toute façon, plus vous allez vers le collège, moins les enseignants lisent autre chose que leur discipline. Au motif qu'on a déjà 10 pages à lire, on ne va quand même pas en lire 120. Et gratos. Donc, il y a incontestablement un rappel dans le cadre de ce volet 2 qui est très important. Ben, ce volet 2, c'est lui qui véritablement définit la manière dont socle et cycle s'articulent. Donc, pour nous, c'est un document tout à fait central. Il y a dans la salle Patrick Raillot qui vous parlera cet après-midi d'autre chose, mais qui pourrait en dire long sur la réflexion qu'on a menée sur le volet 2, notamment dans le cadre du C4, et qui a beaucoup contribué à faire en sorte que dans la version finale du C4, il y ait un volet 2 qui réellement définisse cette articulation entre le socle et les cycles. Et c'était sans doute pour le volet 2 du cycle 4 que le travail était le plus difficile. Et puis, pour faire en sorte que ça ne soit pas oublié au passage par ceux qui seraient tentés de ne pas lire les volets 2, nous en avons rajouté une couche, discrète, mais quand même présente, dans les tableaux les tables des compétences travaillées. Chaque compétence travaillée renvoyait un domaine du socle. À au moins un domaine du socle, en général plusieurs. Et là aussi, ça n'est pas simplement pour faire joli ou pour montrer que le CSP s'est compté jusqu'à 5. Non, c'est pour vraiment rappeler qu'il y a ce lien dont on ne doit pas se défaire. Le socle étant, je le rappelle, dans notre charte des programmes, le socle, c'est le cahier des charges des programmes ou le programme des programmes. Et je dis à tous les enseignants que je rencontre, vous devriez avoir sur votre table de nuit la liasse formée par le socle et les programmes. C'est une affirmation évidemment purement rhétorique. Ensuite, les cycles, nous avons essayé de leur conserver cette orientation tournée vers les apprentissages élèves et les compétences, même si évidemment les programmes doivent être aussi des documents professionnels, mais vous avez remarqué, et je l'ai déjà dit, que ces programmes sont très peu didactisés. Il n'y a pratiquement pas de didactisation. C'est volontaire aussi. Ça nous est beaucoup reproché pour certaines voies disciplinaires, mais c'est volontaire. La didactisation n'est pas de nature programmatique. Et d'ailleurs, pourquoi devrait-elle l'être ? Enfin, peut-être encore une norme, mais nous n'en sommes plus tout à fait là tout de même. La didactisation, c'est l'affaire des collectifs enseignants, des équipes pédagogiques, des établissements, des corps d'inspection, que sais-je, c'est l'affaire des professionnels. Ce n'est pas l'affaire du CSP qui n'est pas une assemblée de professionnels, mais qui représente la société civile et ses intérêts. On me dit souvent qui sont ces branquignoles. Non, c'est le mot a été employé, c'est pour ça que je le réutilise. En plus, j'aime beaucoup Robert Derry, donc je l'ai pris plutôt comme un compliment. Hein. Donc, qui sont ces branquignoles qui n'ont jamais mis les pieds dans une classe ? C'est à voir, pour certains, et qui n'y connaissent rien. Ben oui, mais c'est comme ça que ça a été prévu par la loi. C'est justement parce qu'on n'y connaît rien qu'on nous a demandé de les faire, les programmes, justement pour que ces programmes ne soient pas simplement des documents destinés aux professionnels, parlant aux professionnels. Parce que la professionnalité, elle se constitue à partir des programmes, peut-être, mais elle ne se résume pas aux programmes. Il y a un travail à faire à partir des programmes. Et ce travail, ce n'est pas au CSP de le faire. Et ce travail peut amener, et moi je le souhaite, d'ailleurs le ministère a bougé là-dessus et je m'en réjouis, si nous étions vraiment une démocratie mature, ce travail devrait amener à ce que dans 3 ans, après un premier tour de cycle, on revienne vers le CSP en disant « bon ben voilà, ça marche, ça marche pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Là c'est efficace, là ça ne l'est pas. Ici, c'est clair. Là, on n'y comprend rien. » Et le CSP devrait reprendre cela et reproposer. C'est ça qu'on devrait faire. C'est ce que le ministère a annoncé en début de CSE. Ira-t-on jusqu'au bout ? Il paraît qu'il y a quelques échéances électorales d'ici là. Et on m'a déjà expliqué, je ne vous dirai pas qui le ont, qu'il fallait que je prépare mes bagages. Donc, sans doute, n'irons-nous pas jusqu'au bout ? Et ça sera dommage, parce que nous avions là la possibilité de rentrer non plus dans le système injonctif du décret qui crée l'irréversibilité de la chose acquise et qui fait comme si plus rien ne devait être remis en cause, et nous pourrions rentrer dans une mécanique d'évolution continue des propositions programmatiques qui boucle en permanence le lieu où l'on conçoit les programmes et les instances qui les mettent en œuvre avec des retours d'expérience, une évaluation continue de ce que ça produit, par exemple grâce au CNESCO, grâce aux missions des inspections générales. On pourrait avoir un système complètement différent, à mon sens un tout petit peu plus adulte et intelligent, dans lesquels on pourrait consulter les enseignants, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes. Rêvons un peu. Mais tout ça est très difficile, là je ne vais pas rentrer dans cette discussion, c'est très difficile aussi en raison de cette chose qui s'appelle le code de l'éducation et de la façon dont on l'incrémente et on le documente. Hein. Tant que les programmes sont de nature législative et doivent rentrer dans le code, vous avez une très grande difficulté à en faire des objets souples, évolutifs et mouvants. Vous les fossilisez, vous les figez. Moi, ces programmes-là, bien sûr qu'ils sont imparfaits. Bien sûr qu'il y a des manques. Bien sûr qu'il y a des morceaux de programmes qui sont plus satisfaisants que d'autres. Bien sûr qu'il faudrait les améliorer. Bon, qui pourrait penser le contraire ? Il faudrait vraiment être le dernier des nigauds pour le croire. Et au CSP, on n'est pas complètement idiot. Mais encore faut-il qu'on se donne les moyens pour les faire évoluer. Et pour l'instant, collectivement, nous ne nous en donnons pas les moyens. Moi, ça me navre, personnellement. Ça serait la vraie refondation de l'école, pour le coup. Donc, ces programmes-là ont été travaillés avec deux principes supplémentaires. Un principe de cohérence intrinsèque de chaque cycle. Chaque cycle a son intégrité. Chaque cycle doit être considéré comme étant cohérent. C'est-à-dire poursuivant des objectifs de cycle. Ça, c'est le volet 1 qu'il rappelle. Puis le volet 3, qu'il rappelle. Parce que les programmes ont été pensés en trois volets pour une vraie raison. Volet 1, propos général de chaque cycle. Volet 2, cycle socle. Volet 3, opérationnalisation des ambitions de chaque cycle au regard de ce que le socle propose. C'est ça la conception des programmes. C'est pas si branquignol que ça, hein. C'est plutôt bien réfléchi. C'est ça qu'on a voulu faire. Donc si vous ne lisez pas les trois volets, ben vous ne pouvez pas voir ça. Si vous ne lisez pas le socle, vous ne pouvez pas voir ça. Donc ceux qui critiquent beaucoup les programmes en ayant lu une voie disciplinaire de 10 pages sur les 3 cycles sans jamais avoir lu le socle, ben ils sont dans la situation du mec qui regarde le doigt, qui pointe la lune, quoi. Hein. Il regarde le doigt, mais il ne voit pas le reste. C'est la définition de l'imbécile dans un proverbe bouddhiste. Hein. Quand le sage monte la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est pas normal qu'on lise les programmes comme ça. C'est pas normal que des professionnels de la profession lisent les programmes comme ça. Pardonnez-moi de le dire de façon un peu raide peut-être, mais ça n'est pas compréhensible. Après, on peut ne pas être d'accord avec ce qui est proposé. Moi, je suis un universitaire, donc le fait que les gens soient en désaccord, si vous voulez, ça me fait ni chaud ni froid. C'est plutôt du contentement que les gens ne soient pas d'accord. Mais au moins, on essaie de comprendre ce qui fait qu'on est arrivé là. On se donne les moyens de lire. Autrement, faut pas s'étonner que les élèves ne lisent pas ce qu'on leur propose. Donc, on a essayé de définir des intégrités de cycle. Ces intégrités de cycle, elles sont fondées sur l'idée que les voies disciplinaires sont des voies d'opérationnalisation. Ce ne sont pas des voies de réalisation autosuffisante. Les disciplines sont des véhicules. Les matières qu'on enseigne sont des véhicules. Ça permet d'aller vers quelque chose. Mais ce n'est pas ça qui est essentiel dans la scolarité obligatoire. Je n'ai pas peur de le dire, la disciplinarisation des élèves n'est pas un objectif majeur de la scolarité obligatoire. Voilà. C'est le choix du CSP, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est pas pour nous l'objectif majeur. Autrement, nous aurions écrit un socle disciplinarisé. Si nous avons écrit un socle non disciplinarisé, c'est parce que nous estimons que l'objectif majeur qui doit être poursuivi avec les élèves pendant ce bloc de la scolarité obligatoire, ça n'est pas l'entrée en discipline, comme on dit souvent, hein, l'entrée en religion et en discipline, ça n'est pas ça. Sans doute, ça se constituera plus tard. Et ce plus tard, c'est quoi ? Bien, c'est le troisième bloc, le moins 3 plus 3. Là, on peut commencer à réfléchir à la disciplinarisation des élèves. dans la partie moins 3 plus 3, qui est pour moi le troisième grand moment de la scolarité. Il y a pour l'instant, à mon sens, trois grands moments, pré-obligatoire, donc c'est la maternelle, sco-obligatoire, socle, moins 3 plus 3. C'est comme ça qu'on devrait travailler la scolarité des enfants en France. Les objectifs d'apprentissage devraient être pensés comme cela, et la disciplinarisation, elle arrive très tard. Et je ne suis même pas sûr qu'elle arrive dans le moins 3 plus 3, vraiment entre moins 3 et 0. Je ne suis même pas sûr qu'elle arrive à si vite que cela. C'est peut-être plutôt un objectif du post-bac que de vraiment disciplinariser, et même peut-être très tardif dans le post-bac. D'ailleurs, je note que ceux qui font l'apologie du système des classes préparatoires insiste souvent sur le fait qu'il n'est pas monodisciplinaire. Donc je suis surpris que ce qui marche pour la voie royale, du coup, ne soit plus valable pour ce qu'il y a avant. Notre système scolaire n'est pas un paradoxe près, mais enfin, celui-ci est quand même assez raide. Donc, deuxième logique. Oui, je termine dans 2 minutes. Enfin, 20 minutes. Deuxième logique. En plus de l'intégrité du cycle, et paradoxalement, parce que la deuxième logique est presque paradoxale par rapport à la première, nous avons voulu faire en sorte que se composent des continuités d'enseignement et d'apprentissage pendant 9 années. C'est-à-dire que nous avons à la fois travaillé chaque cycle de 3 ans comme doté d'objectifs propres et d'une intégrité, et en même temps, nous avons essayé de faire en sorte que l'on puisse comprendre, modéliser les progressions des élèves sur 9 années, type d'enseignement par type d'enseignement. Et je dis que c'est paradoxal parce qu'il a fallu qu'on fasse attention à ce que, faisant cela, il n'y ait pas une redisciplinarisation subreptice des cycles 2 et des cycles 3, en particulier du cycle 3, puisque le cycle 3 a la 6e. Et nous avons eu du mal, et je ne suis pas sûr que nous ayons complètement réussi de ce point de vue-là. J'ai un regret, moi, personnellement, c'est que nous n'avons pas complètement tenu la chose. Et il y a une légère redisciplinarisation du cycle 3. Et c'est dommage. Tant est forte l'identification aux disciplines dans le système français. Mais il nous semblait important de pouvoir projeter ces parcours de 9 années. Pour essayer de comprendre justement qu'il y avait un bloc de 3 cycles dotés chacun d'une intégrité. Et que, du coup, le travail qu'il fallait mettre en avant, c'était à la fois le travail collectif des enseignants pour que chaque enseignant s'approprie le cycle dans lequel il s'inscrit préférentiellement. Alors ça peut changer d'ailleurs. Et là, il y a un vrai boulot déjà, en particulier pour le cycle 3. Le cycle 2, j'ai pas de souci. Le cycle 2 se fera et il n'y a pas de problème pour le cycle 2. Il sera bien appliqué. Il y a des petites difficultés de lourdeur. Mais les enseignants font le tri parce que, y compris la lourdeur, c'est pas quelque chose qui est absolu. C'est quelque chose qui est relatif à des possibilités pratiques. Donc, on écrémera le cycle 3, le cycle 2. Et si on va jusqu'au bout de la logique d'expérimentation dont je parlais tout à l'heure, on fera cet écrémage dans quelques temps. Les documents ressources écrémeront un certain nombre de passages du cycle 2 qui apparaissent trop lourds. Donc le cycle 2 ne me pose pas question. Et il sera adopté par les professeurs des écoles, et je pense que les professeurs des écoles le trouveront très bien parce qu'il est très bien. Le cycle 3 est très bien aussi, mais il y a un problème dans le cycle 3, c'est cette foutue classe de 6e. C'est cet enjambement qui est vraiment, vraiment compliqué à mettre en œuvre. Parce qu'il faut que les professeurs travaillent à l'échelle du cycle. Et alors, quand je dis travailler, ce n'est pas simplement échange des informations sur les élèves. C'est vraiment travailler. Oui, en sixième, on a des élèves qui viennent de plusieurs écoles. Oui, et il faut travailler à cette échelle territoriale. Oui, il faut s'organiser pour cela. Oui, c'est indispensable. Nous ne travaillons pas suffisamment le potentiel que nous offre la territorialité de nos établissements scolaires. La territorialité n'est pas un résidu, ne devrait pas être un résidu du fonctionnement scolaire. Ça devrait être un composant de l'organisation de nos parcours d'apprentissage. Le cycle 3 donc est difficile, le cycle 4 est complètement aujourd'hui biaisé dans sa lecture par le fait que nous ne sommes pas sortis de l'idée que le collège était un petit lycée. Or, dans la perspective qui est la mienne, le collège ne peut pas être un petit lycée, puisque le collège, c'est 5e, 3e, c'est le dernier cycle de la scolarité obligatoire, ce qui n'est pas la même chose. Donc, tant qu'on pensera le collège comme un petit lycée et pas comme ce qui vient finir la logique du socle, eh bien, on sera dans l'embarras. D'où les surenchères disciplinaires, dont on n'arrive pas à sortir. Hein. Sur le programme d'histoire, je vais peut-être écrire même un livre rien que sur le programme d'histoire, qui n'existe pas d'ailleurs, hein, puisqu'il n'y a pas de programme d'histoire. Il y a à minima un programme d'histoire et géographie dans un ensemble de programmes de cycle qui est 20 fois plus gros que le soi-disant programme d'histoire qui n'existe pas. Mais le programme d'histoire, c'est insensé. C'est-à-dire, on n'est pas capable aujourd'hui d'être raisonnable par rapport à un programme comme celui-ci. Parce que les enjeux sont des enjeux purement disciplinaires. Pourquoi le programme d'histoire, il est en double boucle chronologique comme ça ? Tout simplement parce qu'on a fait un premier programme d'histoire en chronologie parfaite du CM1 jusqu'à la 3e, mais il fallait enseigner l'Antiquité en CM2. C'est impossible. Les professeurs d'histoire ne l'acceptent pas. Enseigner la partie noble de l'histoire, l'Antiquité. Vous savez bien que sans l'Antiquité, rien n'existe. Des mêmes, hein. Fallait que l'histoire apparaisse dès le C2. Ben non, en C2, en CP, CE2, on s'en fout de l'histoire comme discipline. Hein, on s'en fout même beaucoup plus tard. Hein, mais là, vraiment, c'est pas ça l'enjeu. Vous voyez, et ça vient du fait que tout est étalonné rétroactivement par les CPGE, les lycées. Les CPGE qui ne sont pas disciplinaires, les lycées. Et donc le collège se conçoit comme un petit lycée. Ce qu'il a été, il l'a été, mais bon sang de bois. Oui, même la médecine du temps de Molière a été une référence en son temps. On parle beaucoup de formation des enseignants. Cette formation, elle est absolument indispensable. Elle est en déshérence depuis de longues années et c'est un vrai problème. Mais ne nous méprenons pas sur le type de formation qu'il faut mettre en place. Je pense que les enseignants ont moins besoin d'une formation descendante, d'une formation de contenu, d'une formation qui les informe de ce qu'il faudra faire. Donc je pense qu'ils ont moins besoin d'injonctions que d'un travail qui leur permet de s'approprier les programmes, de prise en considération de leurs besoins, de leurs demandes, d'expérimentation sur place, l'expérimentation étant conçue comme un moment de formation en tant que tel, à l'échelle des établissements. Je crois qu'il faut non seulement restaurer des moyens pour la formation, c'est en cours, mais je pense qu'il faut aussi réinventer le modèle de la formation que nous proposons aux acteurs du système éducatif, et pas simplement aux profs, parce que je pense qu'il faut aussi proposer des formations pour les formateurs, pour les chefs d'établissement et sans doute pour les corps d'inspection, parce que, troisième remarque que je voudrais faire, je crois qu'il faut aussi réviser la conception que nous avons aujourd'hui de l'accompagnement des enseignants, en particulier par les corps d'inspection. Je ne mets personne en cause quand je dis ça, mais je dis que on voit bien le rôle clé que vont pouvoir jouer toutes les professions d'accompagnement des enseignants, chefs d'établissement, corps d'inspection notamment, et l'ensemble même de l'institution. Et il faut sans doute réviser là aussi nos principes. Parce que je m'aperçois que très souvent, ce qui justifie que certains professeurs soient paniqués devant des programmes comme ceux que nous proposons, c'est l'idée que les inspecteurs vont leur proposer des grilles normatives à partir de cela et que lorsqu'ils seront inspectés, qu'est-ce qu'on va me dire si jamais je ne fais pas exactement ce qui est écrit ? Moi, j'ai tendance à dire, ça n'a aucune importance, puisque ce qui est important, c'est ce que je vous ai expliqué par la suite. Mais tant qu'on restera avec ce type de réflexe, je pense qu'on aura du mal à faire ce que nous avons cherché en écrivant ces programmes, c'est-à-dire à faire en sorte que ces programmes orientent sans contraindre. Voilà, merci, excusez-moi d'avoir été un peu long.